Vous écoutez, on lit pour vous.
L'héritage évanescent de George Floyd, 5 ans après sa mort. Un texte de Ben Turner de l'agence France Presse, paru le 25 mai 2025 dans Le Devoir. Les États-Unis commémoraient le dimanche 25 mai 2025 la mort de l'Afro-Américain George Floyd, tué il y a 5 ans par un policier blanc. Un événement qui avait déclenché de fortes mobilisations populaires, alors que Donald Trump fait marche arrière sur toutes les réformes destinées à lutter contre le racisme. L'arrestation et le meurtre de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis, Minnesota, avaient donné une nouvelle ampleur au mouvement Black Lives Matter, BLM, qui rêvait de régler une fois pour toutes les questions de racisme profondément enracinées aux États-Unis, des violences policières aux inégalités systémiques. Mais depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, son gouvernement a supprimé les enquêtes sur les usages excessifs de la force par la police et a mis un frein aux initiatives d'embauche en faveur de la diversité. Mercredi, le département de la justice a ainsi annoncé abandonner les poursuites judiciaires contre les polices de Minneapolis et de Louisville, accusées de violence après les morts d'Afro-Américains qui avaient secoué le pays en 2020. Dans le même temps, BLM ne jouit plus du soutien dont il bénéficiait à l'origine lors des grandes manifestations qui s'étaient répandues dans tout le pays jusqu'aux portes de la Maison-Blanche où Donald Trump terminait son premier mandat. Le mouvement a perdu de la vigueur et son bilan reste en demi-teinte. Malgré tout, des élus démocrates ainsi que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, ont tenu à commémorer l'événement. Alors que la lutte contre le racisme, les efforts d'inclusion et les réformes dans les forces de l'ordre subissent de sérieux revers, nous devons continuer à défendre la justice raciale et l'égalité dans le monde entier avec une détermination et une force accrue, a ainsi écrit M. Turk sur X. Une cérémonie s'est déroulée dimanche sur ce qui a été renommé la place George Floyd, à l'endroit où cet homme de 46 ans a été étouffé par le policier Derek Chauvin, qui avait longuement appuyé son genou sur le cou de la victime lors d'une arrestation musclée, ce qui avait provoqué sa mort. Climat politique hostile. Des dizaines de personnes se sont rassemblées sur le petit carrefour dans un quartier résidentiel de cette ville du nord des États-Unis. La place est couverte d'œuvres d'art protestataires, dont une peinture murale violette sur laquelle on peut lire « Tu as changé le monde, George ». Ce message optimiste, peint en 2020, tranche aujourd'hui avec un président dont les alliés les plus extrémistes ont suggéré qu'il gracie Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd et condamné à plus de 22 ans de prison. Certains experts estiment que la réélection de M. Trump était en partie un contre-coup de l'activisme de BLM, dont des manifestations avaient tourné à l'émeute dans certaines villes. Les membres de la famille de George Floyd ont déclaré vendredi à l'agence France Presse, AFP à Minneapolis, qu'ils voulaient que les gens continuent à faire pression pour des réformes malgré le climat politique hostile. Nous n'avons pas besoin d'un décret pour nous dire que les vies noires comptent, a déclaré sa tante Angela Harrelson. Pour Paris Stevens, une cousine de Floyd, personne ne peut plus nous faire taire. C'est décourageant. D'autres rassemblements pour commémorer la mort de George Floyd sont aussi prévus à Chicago ou Dallas, même si aucune grosse manifestation n'est au programme. George Floyd repose peut-être en paix, mais il est vivant à travers tous ceux qui viennent ici, a déclaré dimanche à l'AFP W.D. Foster Graham, un auteur qui a grandi dans le même quartier. Il peut être très facile d'oublier, mais d'une personne à l'autre, faisons en sorte de ne jamais oublier et de faire savoir au pouvoir en place que nous n'avons pas oublié et que nous ne partirons pas a ajouté l'homme de 73 ans. Jamie Denclos, 30 ans, qui travaille pour une association à Minneapolis, se dit quant à elle bouleversée par la rhétorique à connotation raciale de Donald Trump, qui bénéficie d'un soutien important de la part de personnalités d'extrême droite. C'est décourageant de voir que notre pays a élu cet individu à la présidence, et cela me fait vraiment douter de l'importance qu'accorde notre communauté à l'égalité et à l'inclusion. C'était l'héritage évanescent de George Floyd, 5 ans après sa mort. Un texte de Ben Turner de l'agence France Presse, paru le 25 mai 2025 dans Le Devoir.
Pourquoi coûte-t-il moins cher de construire une école privée? Un texte de Zachary Goudreau, paru le 22 mai 2025 dans Le Devoir. Il coûte parfois 2 fois moins cher de construire une école privée qu'une école publique au Québec. Une série d'experts qui travaillent sur de telles infrastructures appelle ainsi le gouvernement à réduire la lourdeur bureaucratique associée aux chantiers qu'il finance et à mettre en place des mesures pour réduire la fréquence des dépassements de coûts en cours de route. La construction d'une école secondaire privée carboneutre à Dorval par le Collège Sainte-Anne, achevée en pleine pandémie de COVID-19 en 2022, a coûté 27 millions de dollars. La superficie du bâtiment étant de 60 000 pieds carrés, il en a donc coûté 450 dollars le pied carré pour concevoir et bâtir cette école, a constaté Le Devoir. 2 ans plus tard, en août 2024, le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, CSSPI, inaugurait l'école secondaire aux Millevoies à Montréal-Nord. L'imposant bâtiment de 269 097 pieds carrés a coûté 270 millions de dollars à construire, soit 1003 dollars le pied carré. C'est le budget total du projet, incluant le terrain, la conception et la construction, indique le CSSPI. C'est donc 2,2 fois plus d'argent par pied carré que ce qui a été dépensé par le Collège Sainte-Anne pour la conception et la construction d'une nouvelle école secondaire. La comparaison entre projets demeure particulièrement complexe en raison de la multitude de variables contextuelles, techniques et économiques à prendre en compte pour qu'une telle analyse soit réellement significative, prévient l'architecte Hugo Gagnon, de 9 architectes. Le ministère de l'Éducation note pour sa part qu'il ne possède pas d'informations à l'égard des constructions d'écoles privées, lui permettant de dresser un tel constat, soit que celles-ci coûteraient moins cher à construire que les établissements publics. Lourdeur bureaucratique. La plupart des 6 architectes joints par Le Devoir dans le cadre de ce reportage conviennent toutefois qu'il est généralement moins coûteux de réaliser une école privée que publique au Québec, puisque la première n'est pas assujettie à une lourdeur bureaucratique aussi ample. Je pense qu'il y aurait lieu de s'asseoir pour comparer, puis de voir s'il n'y aurait pas moyen de réduire la lourdeur administrative des projets au public. On va manquer de place dans nos écoles publiques et privées très rapidement. Et puis, d'après moi, s'il y avait une façon d'accélérer les chantiers pour faire en sorte que ça coûte moins cher à l'État, nous, on est toujours prêts à collaborer puis à partager les meilleures pratiques, souligne le président de la Fédération des établissements d'enseignement privé, David Bowles. Selon lui, il ne fait pas de doute que cela coûte vraiment moins cher de construire une école privée au Québec. Cela s'explique notamment par le fait que, dans le secteur public, tout projet d'école évalué à plus de 50 millions de dollars doit faire l'objet d'une supervision rigoureuse de la part de la Société québécoise des infrastructures, SQI, qui gruge un certain pourcentage du budget de ce chantier en frais de gestion, lesquels peuvent s'élever à eux seuls à des millions de dollars. Est-ce qu'il y a des centres de services scolaires qui ont les moyens, la capacité de construire des écoles sans l'intervention de la SQI et, alors ça pourrait être moins coûteux en frais de gestion et en coordination de projet, se demande Roch-André Malot, directeur général du Centre de services scolaires des Mille-Îles, CSSMI, dans les Laurentides. Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus performant si on revoyait la structure qui est en place actuellement, ajoute-t-il. Un cadre serré à respecter. Les architectes déplorent eux aussi le cadre rigide qu'ils doivent respecter dans la planification des écoles publiques. Actuellement, illustre Patrick Sabourin de la firme TLA Architectes, si Québec demande qu'une école ait une dimension de 5900 m², des architectes doivent à tout prix respecter le cadre soumis, même si une école légèrement plus grande pourrait, dans certains cas, coûter moins cher à construire en ayant une forme plus facile à concevoir. Il y a comme un non-sens là-dedans, déplore l'architecte, selon qui la machine publique fait en sorte que ça peut coûter plus cher de construire une école publique en raison des restrictions qui doivent être respectées, des contraintes qui influencent parfois les soumissions que font les entrepreneurs. Un entrepreneur général qui soumissionne dans les marchés publics sait qu'il y aura plus de lourdeur et de processus administratifs sophistiqués, complexes et rigoureux qu'il devra respecter, souligne la directrice générale de l'Association des architectes en pratique privée du Québec, Lynn Parent. L'entrepreneur, sachant ça, c'est sûr que ça va jouer sur son prix. Les architectes contactés notent d'ailleurs que l'obligation pour les organismes publics de sélectionner dans leurs appels d'offres le plus bas soumissionnaire conforme a pour effet d'inciter des entrepreneurs généraux à proposer le prix le plus bas possible afin d'être choisis, puis à aller chercher des failles dans les plans et devis qui leur permettront de récolter des sommes supplémentaires pendant la réalisation du projet. La facture finale s'en retrouve alors gonflée. C'est souvent la règle du plus bas soumissionnaire qui est difficile à gérer, constate ainsi Geneviève Goudreau de l'agence d'architecture NFOE. Alors que les écoles privées, elles, ont le luxe de pouvoir choisir leur entrepreneur et de négocier un prix avec lui afin d'éviter des dépassements de coûts imprévus. Une stratégie qui donne de l'espoir. Conscient de ces défis, le gouvernement du Québec a élaboré l'an dernier la stratégie québécoise en infrastructure publique qui vise à accélérer les chantiers qu'il finance et à réduire leurs coûts. Celle-ci prévoit notamment un recours accru à des bâtiments préfabriqués et veut simplifier l'utilisation de modes de réalisation s'appuyant sur la collaboration. On met tout le monde autour de la table en misant sur une meilleure coordination de tous les intervenants, et ce, en permettant notamment aux architectes et aux entrepreneurs généraux de travailler ensemble sur l'évaluation budgétaire et la réalisation de certains projets, explique Lynn Parent, qui voit d'un bon œil la mise en œuvre de cette approche. Au bout du compte, tout le monde a intérêt à arriver à une entente amenant des profits à tout le monde, lance le président directeur général de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, Éric Côté, selon qui le modèle collaboratif proposé, s'il se concrétise à large échelle dans le secteur public, ne fera que des gagnants. C'était « Pourquoi coûte-t-il moins cher de construire une école privée ?» un texte de Zachary Goudreau, paru le 22 mai 2025 dans Le Devoir.
Des histoires de lesbiennes. Un texte de Rose Aimée, automne, T. Morin, paru le 14 mai 2025 dans La Presse. C'est la première fois que j'expérimente un tremblement de terre en visioconférence. Dans mon écran, Beth Schindler a les yeux ronds. « Entends-tu les alarmes de voitures qui viennent de se déclencher? L'artiste texane est de passage en Californie et l'État l'accueille avec un de ses séismes signature. « Ça va? Veux-tu qu'on se rappelle? » Beth prend un instant pour se recomposer. « Non, non, » qu'elle me répond. « On peut commencer l'entrevue. » Sans le savoir, Beth Schindler embellit mon quotidien depuis septembre dernier. Elle influence peut-être le vôtre aussi, si, comme moi, vous avez le bonheur de croiser l'une des affiches dont elle est l'instigatrice dans les rues de Montréal. Si je traduis deux d'entre elles, ça donne quelque chose comme « Ici, le 28 août 2024, une lesbienne de 50 ans a consommé trop de vin nature et de potes, elle a vomi dans la rue. Elle s'est sentie vivante et libre. » Ou, ici, le 13 juillet 2005, une lesbienne a récupéré un sac de bagels dans les poubelles et les a distribués dans un after-party. Les lesbiennes sauvent des vies. En fait, chacune des affiches relate avec humour un épisode survenu exactement là où on se trouve. Les images sont vives, disons. Difficile de ne pas sourire en lisant ces témoignages. Avec la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie du 17 mai 2025, le moment était tout indiqué pour en savoir plus sur cette initiative. Ce qui nous amène à ma rencontre virtuelle avec Beth et à la terre qui tremble. Beth Schindler est une artiste multidisciplinaire américaine. En août 2024, elle a bénéficié d'une résidence offerte aux lesbiennes de plus de 40 ans par l'organisation Dyke Plus Art House à Philadelphie. En quête d'inspiration, elle s'est rendue aux archives gays et lesbiennes de la municipalité. Elle y a trouvé beaucoup de choses fantastiques et magnifiques, mais aussi beaucoup de tristesse, de tragédie et de trauma, raconte-t-elle. Et si Beth reconnaît les blessures infligées à la communauté queer, beaucoup de son travail vise à insuffler de l'humour, voire du ridicule au lesbianisme. L'artiste a donc eu l'idée de souligner l'importance de certains établissements et, surtout, l'autodérision qu'elle aime tant chez ses pères lesbiennes. Beth a lancé un appel à toutes sur les réseaux sociaux pour récolter leurs folles et banales histoires. Rapidement, des gens de partout aux États-Unis lui ont envoyé des anecdotes associées à des lieux précis de Philadelphie. Ici, une jeune lesbienne a appris à mettre une coupe menstruelle. Des femmes ont fait un trip à trois après avoir visité une galerie d'art. Un couple a finalement terminé son processus de séparation qui durait depuis 5 mois et du même coup établi l'horaire de coparentalité de son chien. Beth a inscrit les anecdotes sur des affiches qu'elle a ensuite posées près des lieux significatifs mentionnés. C'est devenu viral. Les gens ont adoré. Pour l'artiste, le Lesbian Mapping Project tombe à point dans un climat politique qui encourage la méfiance envers les minorités sexuelles et de genre aux États-Unis. « Rire, » dit Beth Schindler, « c'est peut-être plus important que jamais. On est attaqué pour notre seule existence. C'est bon de pouvoir faire des blagues un peu, comme tout est si intense en ce moment. » La beauté de son initiative, c'est aussi la liberté qu'elle offre aux participantes. C'est toujours un geste radical que de prendre de l'espace en tant que personne queer, croit Beth Schindler. Avec ce projet, on n'a pas de permission à demander à qui que ce soit. Ça ne coûte à peu près rien. On n'a besoin que d'un morceau de papier, d'un crayon, de l'eau et de la farine. Tout le monde peut prendre la parole. On peut même télécharger un modèle type d'affiche sur le site de Dyke plus Art House. D'ailleurs, depuis la naissance du projet à Philadelphie, des femmes d'Atlanta, Berlin, Austin, New York, Charlottesville et Montréal ont pris le relais. Beth et ses copines ont posé une dizaine d'affiches chez nous en septembre dernier. Bernadette Hood était de la partie. L'artiste multidisciplinaire a été charmé par l'incongruité de la proposition. Je trouvais ça tellement drôle. Souvent, les histoires lesbiennes sont plus sérieuses, engagées et politiques. Ce projet est engagé, mais d'une autre façon. On est vraiment du côté ludique, joyeux et farfelu. C'est bon de se rappeler qu'il y a une lutte politique importante en cours, mais qu'il y a aussi de la joie. L'affiche préférée de Bernadette Hood est posée près du bar Notre-Dame des Quilles. Elle évoque de la torture, un lavabo brisé et un combat de vélo. Une soirée qui finit de manière très absurde dans un esprit propre aux étés de Montréal, résume-t-elle. Bien que le nom de l'initiative puisse être traduit par « projet de cartographie lesbienne », il n'existe pas de carte pour répertorier les affiches. Si votre curiosité est piquée, Bernadette Hood souligne qu'on peut en voir à Montréal, à l'angle de Clark et Fairmont, de Park et Van Horn, puis de Saint-Laurent et Saint-Viateur, notamment. Le fait d'ancrer les affiches dans le monde physique n'est pas anodin pour Beth Schindler. Tant de choses sont numériques aujourd'hui. Ces ressources sont précieuses, mais elles sont aussi vulnérables. Je suis heureuse de plutôt mettre ces histoires dans les rues. Pour l'instant, comme l'initiative est née aux États-Unis et qu'elle n'a été portée que par Beth et ses amis, ici, les affiches sont en anglais. Par contre, Beth Schindler et Bernadette Hood, avec son groupe Lesbian on Ecstasy, se produiront toutes deux dans le cadre du festival Suoni per il Popolo en juin. Elle compte en profiter pour organiser un événement grand public et récolter le témoignage de lesbiennes francophones. En attendant, on peut toujours prendre les choses en main en téléchargeant le modèle type d'affiche, puis en criant notre histoire haut et fort dans les rues de notre choix. Par résistance, par fierté, par joie surtout. C'était « Des histoires de lesbiennes », un texte de Rosemée Autonne T. Morin, paru le 14 mai 2025 dans La Presse.
En juin, je lis Autochtone, suggestions littéraires. 6 suggestions de lecture d'Audrey-Lise Roque-Hervieux et Myriam Paul-Ouellet, parues le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis Autochtone ». Audrey-Lise Roque-Hervieux, alias arrobas maman autochton. Audrey-Lise Roque-Hervieux est une autrice, conférencière et blogueuse innue, originaire de Pessamite. Elle travaille dans les milieux culturels, éducatifs et médiatiques pour faire rayonner les voix autochtones, l'Innu Emun et le Nitassinan. Elle termine présentement l'écriture d'un conte pour enfants inspiré de rêves et d'histoires de son peuple. Je vous propose trois livres écrits par des auteurs-autrices autochtones à lire absolument. D'abord, Nutchimit de Mélissa Mullen-Dupuis et Élise Gravel, un livre jeunesse qui explique simplement la vie en territoire. Ensuite, 500 ans de résistance autochtone de Gord Hill, une bande dessinée forte et touchante qui raconte l'histoire des luttes autochtones depuis la colonisation. Enfin, Écrits autochtones, comprendre les enjeux des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Canada, de Chelsea Vowell, un recueil de textes clairs et percutants sur l'identité, la langue, le colonialisme et la réconciliation. Trois livres différents, mais essentiels. Myriam Polwele, alias arrobas maudite, barre de soulignement, Inushkweu. Myriam Polwele, il nue de Mashtuyach, crée en juin 2024 le compte Instagram Maudite Inushkweu afin de répondre à son propre besoin de retrouver davantage de littérature autochtone francophone sur les réseaux sociaux. Avec ce compte, elle désire promouvoir et faire rayonner cette littérature essentielle et inciter les allochtones et les autochtones à la consommer. Une dose de rage m'a d'abord séduite par sa couverture et m'a ensuite captivée par son histoire. Angéline Boulay offre une perspective authentique des enjeux autochtones contemporains. Ces enjeux sont bien ficelés autour de Dani, jeune femme Ojibwe, qui devra devenir informatrice pour le FBI afin d'enquêter sur un trafic de drogue aux conséquences importantes pour sa communauté. Dans Mikunis, ma petite sœur, Laura profite du retour à la maison en autobus pour raconter à sa petite sœur l'origine de son prénom. Ce premier album s'inscrit dans une série de trois tomes sur les prénoms décolonisés. Joannie Gill, texte, et Amélie Courtois, illustration, nous offrent une histoire empreinte de douceur et de sincérité. La septième sorcière, de Chérie Dimaline, est un livre où se mêlent rencontres, sororité, inclusivité et féminisme sur fond de pouvoir magique et de sorcellerie. Si, comme moi, vous attendez encore votre lettre d'acceptation pour Poudlard, cette histoire saura vous réconcilier avec le fait que vous ne l'avez toujours pas reçue. C'était « En juin, je lis autochtone, suggestions littéraires, 6 suggestions de lecture d'Audrey Lise Roque-Hervieux et Myriam Paul-Ouellet, paru le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis autochtone ».